Que le nom du Seigneur soit béni. Alors ouvrons le Saint-Livre, ouvrons-le. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8, c'est juste des situations qui se sont passées après le fameux sermon sur la montagne. Nous allons voir la grande différence entre un païen et des croyants. Et vous allez voir qu'il y a des choses étonnantes dans la parole de Dieu. Matthieu chapitre 8, verset 5e. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier, donc un officier de l'armée romaine, l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un « va » et il va, à l'autre « vient » et il vient, et à mon serviteur « fais cela » et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Amen. Elle n'est pas belle cette histoire? Sérieusement, quelle belle histoire pour exhorter les hommes à reproduire la même expérience. Car ces choses ont été écrites dans un but bien précis, c'est que nous aussi, nous fassions valoir la foi que Dieu nous a donnée. Cette histoire, elle est très étonnante, parce que nous avons affaire à un officier de l'armée, censé être païen, c'était un militaire. Est-ce que Dieu peut bénir les militaires? Est-ce que Dieu peut bénir les militaires? Moi, j'ai entendu tellement d'âneries sur les gens que Dieu pouvait ou ne pouvait pas bénir. Vous savez, les gens, ils ont des idées arrêtées. Un militaire, c'est un gars qui est formé donc pour tuer, donc Dieu ne doit pas s'intéresser à lui. Mais vous avez vu que dans cette affaire, Dieu va bénir le militaire et même lui faire une des plus belles éloges qu'on entend dans les évangiles. Et d'un autre côté, Dieu va faire des reproches terribles aux fils du royaume, si vous avez lu le verset 12, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Vous avez été interpellé dans l'Écriture par certains mots, par certaines paroles, par certaines expressions. Est-ce qu'il y a des versets qui vous ont étonné dans la Bible? Quand vous avez lu la Bible pour la première fois, est-ce que tout pour vous était normal? Tiens, c'est normal, c'est naturel. Moi, je vous assure que l'expression qui m'a le plus travaillé, après certaines prophéties, bien sûr, c'est cette expression qu'on ne retrouve que dans la bouche de Jésus, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Quand on nous présente l'évangile, on nous présente ce qui vient d'être fait pendant les cantiques, ce qui est vrai à 100%, c'est que Dieu veut nous bénir, c'est que Dieu nous aime, c'est qu'il nous sera fait selon notre foi, et tout ça, c'est ce qu'on est en train de voir, et qu'il faut vivre et revivre, si c'est le cas. Mais nous voyons aussi que si Dieu est plein d'amour pour ceux qui l'invoquent, en même temps, Dieu nous fait toujours ressortir sa sainteté, sa justice et les conséquences du péché. Et là, c'est une histoire terrible, parce que c'est la première fois qu'on voit cette expression dans la Bible, dans Matthieu, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents, quand les fils du royaume, on pourrait dire aujourd'hui, quand les chrétiens, comment vous le voyez? Est-ce que j'exagère? Et non? Lorsque les chrétiens seront jetés dans les ténèbres. Mais qu'est-ce que c'est cette affaire? Alors l'officier qui a été formé pour tuer, lui il est béni, et les fils du royaume, ils sont perdus. Mais qu'est-ce que c'est cette affaire? C'est un petit peu comme quand vous lisez, quand il a dit aux pharisiens, les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. Ils ont dû s'arracher les cheveux. Parce qu'ils ne comprenaient pas quelque chose de vital dans le royaume de Dieu. On n'est pas sauvé parce qu'on a une religion, on n'est pas sauvé parce qu'on a l'apparence de la piété, on n'est pas sauvé parce qu'on récite des prières, on n'est pas sauvé parce qu'on va dans une église, on est sauvé quand on a une foi vivante. Et ce soir, vous devez vous poser la question, mais est-ce que ma foi, elle est vivante? Parce que croire en Dieu, mais ne pas lui faire confiance, ça sert juste à tranquilliser un peu la conscience. Je vais à l'église, tiens, c'est sympa, je dois avoir Dieu de mon côté, puisque je vais à l'église. Vous comprenez, hein? Je vais à l'église, peut-être qu'il est à côté de moi. Je prends le pain et le vin, peut-être que je suis en communion avec Dieu. Voyez, on pourrait tomber dans ces analyses. Mais là, cette expérience nous montre quelque chose d'important. C'est que Dieu, comme on l'a chanté, il vous connaît. Car Dieu nous aime, rien n'est secret, tous nos problèmes, il les connaît. Vous savez, on ne trompe pas Dieu. Ces gens-là qui paraissaient être de bons chrétiens ont dû s'entendre dire « les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres ». Alors, est-ce que Jésus n'aimait pas les pharisiens? Est-ce que Jésus aimait les pharisiens? Mais bien sûr, et la sévérité de Jésus n'est pas un manque d'amour, mais au contraire, c'est pour provoquer un électrochoc et pour leur montrer que ce n'est pas parce qu'on a grandi dans une église, grandi dans un mouvement, et bien que tout est gagné d'avance. Non, le problème, c'est quel que soit notre passé, parce que cet officier, laissez-moi vous dire que quand vous étudiez comment étaient formés les militaires à l'époque, aujourd'hui, bon, je ne sais pas si vous avez déjà vu des reportages sur la formation des légionnaires. Est-ce que vous avez déjà vu des reportages sur la formation des légionnaires? Vous avez jamais vu? Quand vous voyez les reportages sur la formation des légionnaires, vous en déduisez, au bout de 8 mois de formation minimum, que ça ne va pas devenir des enfants de cœur, comme on dit. Ce sont des gens qui sont programmés à quoi faire? À tuer. Parce que déjà, l'armée, vous savez, quand on vous présente, engagez-vous, vous verrez du pays, et ils vous montrent les zodiacs qui filent sur une mer d'huile, et les gars qui font de la plongée. Mais l'armée, c'est pour apprendre à tuer les gens. Vous pouvez le calculer comme vous le voudrez, l'armée, c'est pour apprendre à tuer. Et cet homme qui avait été formé à haïr l'ennemi, eh bien, c'est un homme qui a décidé, à un moment donné, d'aimer les autres. Et quel que soit votre passé, parce que des fois on entend, oui, mais si vous aviez traversé ce que j'ai traversé, si vous aviez subi ce que j'ai subi, etc., etc., eh bien, vous ne me parleriez pas de Dieu. Mais vous avez là un exemple d'un homme qui a été enseigné à haïr, à tuer, et qui pourtant a décidé de bénir, a décidé d'aimer. Il était attaché à son serviteur. On le voit dans un autre texte, il était énormément attaché à son serviteur. Je ne sais pas s'il y a des gens que vous aimez. Il y a des gens que vous aimez? Est-ce qu'il y a des gens que vous aimez? Est-ce que vous aimez quelqu'un de tout votre cœur? Est-ce que vous aimez tout le monde de la même manière? Mais non, heureusement. On ne peut pas aimer tout le monde de la même manière. Il y a l'amour filial, il y a l'amour parental. On doit aimer son papa, extrêmement son papa. On doit aimer sa femme. Il y a l'amour conjugal, il y a l'amour fraternel. Oui ou non? Il y a plusieurs formes d'amour, et c'est tout à fait cohérent qu'il y ait plusieurs formes d'amour. Mais il y a quand même des gens que l'on apprécie, etc. Et on voit cet homme, il avait décidé d'aimer. C'était un Italien, certainement. Il était là, en Israël. Eh bien, il avait même choisi d'aimer les gens qui étaient à son service. Et vous savez, c'est un choix d'aimer. C'est un choix de dire, moi, je veux aimer les gens. Je veux aimer mes voisins. Même si, bon, des fois, on ne peut pas, je veux dire, être en affinité avec tout le monde. Mais on peut se décider d'aimer. Tu m'as placé dans cette nation, eh bien, je veux aimer ce pays. Est-ce que vous aimez la nation de France? Eh ouais, c'est important. Moi, j'ai travaillé 3 ans en Outre-mer, et je m'étais fait un point d'honneur d'aimer la Polynésie exactement comme j'aimais mon pays. Et je peux vous dire que les gens, ils le sentent quand on les aime. On le sent. Cet homme, non seulement il était béni parce que les gens lui faisaient des éloges, mais ce que Jésus a surtout vu, c'est que dans son cœur, il y avait une grande foi. Donc, ne nous fions pas aux apparences. Nous, on peut dire, tiens, celui-là, il se promène avec sa sacoche, sa Bible. Ah, c'est le pasteur. Oh, qui doit avoir une grande foi, le pasteur. Et on peut voir un militaire, vous savez, un habit qu'on appelle ça, ces habits de camouflage, là. Et on dit, tiens, ça, c'est les païens. Entrée. On peut être... Ne jugez jamais quelqu'un par rapport à sa coupe para, par rapport à sa tenue vestimentaire, par rapport au fait qu'il se promène avec ou pas sa Bible, Dieu regarde au cœur. Et ce soir, Dieu regarde dans votre cœur. Le Seigneur, il sait une chose, c'est qu'il veut vous sauver. C'est pour ça qu'il est mort sur le bois de la croix. Cette expression, moi, m'a beaucoup fait réfléchir, non seulement en tant que chrétien, mais en tant que pasteur. car on a quand même la responsabilité d'enseigner aux hommes et aux femmes comment se convertir. Cette expression, elle est très sévère. Vous êtes d'accord avec moi qu'elle est sévère? C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Je vous dis, cette expression revient 7 fois dans la parole de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne la retrouve que dans la bouche du Seigneur Jésus. C'est pour nous faire prendre conscience que ce sont des choses solennelles et que dans le royaume de Dieu, on n'entre pas n'importe comment. Le Seigneur Jésus nous parle de ce jour où on va se retrouver avec Abraham, Isaac et Jacob. Est-ce que vous savez que dans le ciel, vous connaîtrez tout le monde ? Quand vous verrez Josué, on parlait avec monsieur de Dieu, on parlait tout à l'heure de Josué, d'une situation qui s'est passée en Israël. Quand vous verrez Josué, vous saurez que c'est Josué. Vous le savez ? Est-ce que vous le savez ? Pourquoi je le sais ? Eh bien parce que la Bible dit qu'on connaîtra comme on a été connu. On connaîtra tout. La femme du pasteur qui m'a formé me disait, mais tu sais Gérard, quand tu seras au ciel, tu prendras un piano. Parce que, est-ce qu'il y aura des pianos au ciel ? Enfin, bon, c'était une façon de parler. Elle me dit, tout le monde saura jouer du piano, parce qu'on sera parfait. Est-ce que vous le croyez, ça ? Vous avez envie de jouer du piano ? Est-ce que vous croyez qu'on sera... Est-ce que Jésus connaît la musique ? Ben oui, il connaît tout. C'est tout. Vous ne croyez pas qu'il a inspiré des cantiques qu'on chante parfois ? Est-ce que des cantiques peuvent être inspirées par le Saint-Esprit ? On connaîtra tout, et nous ne nous rendons pas compte. Mais il y a ceux aussi qui connaîtront les tourments éternels. Et c'est ça le paradoxe. On parlait tout à l'heure, monsieur de Dieu parlait de cette femme qui a failli se supprimer parce qu'elle avait perdu son fils. Ça me faisait penser à il y a quelques mois, de ça, un an et demi, il y a une jeune femme qui avait 25 ans. Elle est passée, elle est rentrée dans l'église, elle était dans un état de désespoir. Vous savez, il y a des gens qui le portent sur eux. Et elle me dit, je suis venue dans l'église, j'ai besoin d'aller dans l'église avant de me suicider. Avant de me suicider. Je voulais aller me suicider. Et je me suis dit, tu vas quand même aller dans une église. Vous savez, c'est important d'avoir l'église ouverte le dimanche après-midi. Et cette femme, elle est venue pareil. Elle a été touchée, je ne sais pas sur quoi, on a prêché, j'en sais rien. Mais cette femme, ça lui a donné l'envie de vivre. Elle m'a dit, non, je n'irai pas me suicider après le culte. Elle a dit, j'irai à Paris voir ma mère. J'ai besoin de voir ma mère, de refaire la paix avec ma mère. Il faut que je la retrouve, etc. Et en septembre, elle est revenue. Elle me dit, j'ai donné mon cœur au Seigneur. J'ai donné ma vie à Jésus. Je suis plein d'espoir. Quelle grâce! Quelle grâce d'avoir le cœur plein d'espérance. Ces choses-là, elles ont été écrites pour qu'on comprenne bien, qu'on ne trompe pas Dieu. Un militaire formé à haïr peut être béni parce qu'il va mettre toute sa foi en Dieu. Et un religieux, il y a des chrétiens qui nous ont profondément déçus, oui ou non. Je ne pense pas être le premier à dire qu'on a été, mais presque écœuré par le comportement de certains chrétiens, oui ou non. Et bon, pour nous, ce n'est pas grave parce qu'on a passé le cap. Mais il y a des gens qui ont été scandalisés. Et ça, c'est grave. Et Jésus dit, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres. C'est pour ça que même si vous ne comprenez pas, il vous faut lire la Bible. Parce que quand vous lirez la Bible, vous comprendrez que ce n'est pas parce que des chrétiens qui ont mauvais témoignage que Jésus va se laisser avoir. Ce qui est important, c'est que vous soyez vrais et que vous entrez dans le royaume de Dieu de la façon la plus vraie. On va lire notre texte pour finir, où Jésus justement parle des pleurs et des grincements dedans. Donc cet homme a été béni parce qu'il avait une foi vivante. Et la foi, comme le frère le disait tout à l'heure, c'est croire. Croire ce que Dieu dit. Croire que par ses meurtrissures, vous êtes guéri. Quelqu'un a-t-il besoin de guérison ce soir ? Oui, il y a une sœur qui est là parmi nous, qui a demandé l'onction d'huile. Eh bien, on va le lui faire. Et moi, je crois que Dieu va la guérir. Moi, je le crois. Je crois que Jésus, il ne nous ment pas. D'ailleurs, cet homme, vous avez vu, il a même dit à Jésus, mais ce n'est pas la peine que tu te déplaces. Mais ce n'est pas la peine. Hein. Ce n'est pas la peine. Hein. Moi, j'ai des serviteurs, je dis à l'un va, il le fait, je dis, viens, il vient. Toi, tu dis un mot. Est-ce que vous croyez que Dieu peut prononcer un mot sur votre vie et vous guérir ? Vous croyez ? Même si tout le monde est contre vous ? Ben oui, mais la foi, c'est ça. Dieu vous connaît, on l'a entendu dans les chants. Dieu vous aime. Vous n'avez pas besoin de prier pendant 3 mois pour penser à croire que Dieu va vous écouter. À partir du moment où vous criez à Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, où la foi est plus forte que le doute, eh bien, Dieu peut vous bénir. Donc, cette histoire, elle est sérieuse. La foi amène la bénédiction. Mais dans Matthieu 22, il y a une autre histoire racontée par Jésus lui-même, où il parle justement d'une invitation, du festin des noces. Oui, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Oui, il y aura des hommes et des femmes qui vont périr dans l'étang de feu pour l'éternité. Ça fait mal au cœur ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça ? Qu'est-ce que vous en pensez de l'enfer ? Il faut en parler, il ne faut pas en parler ? Est-ce qu'il faut en parler ? Et ouais. Vous savez, Dieu ne bénit que sa parole. Alors, quand je me suis converti, je me suis dit, mais pourquoi, Seigneur, tu as créé l'enfer? Tu ne crées pas l'enfer et le problème était réglé. Vous savez, nous, on a une façon de penser, mais je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui aiment les ténèbres. Et Dieu, il sait ce qu'il fait. Dans ce deuxième texte, où Jésus parle des pleurs et des grincements dedans, il invite tout le monde. Beaucoup refusent, beaucoup refusent. Il se préoccupe d'autre chose, et nous voyons, malgré le fait d'avertir du verset 8, Matthieu 22, 8, que le Seigneur insiste pour que tout le monde entre, pour que tout le monde vienne. Verset 8, allez, allez. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent. Les militaires, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Cette parole, elle est connue, c'est même un proverbe mondain que l'on utilise parfois. Dans le monde, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais c'est une parole à portée spirituelle qui nous prouve que Dieu appelle les hommes, il les appelle. Ce soir, Dieu vous appelle afin que vous lui donniez votre cœur, que vous lui donniez votre vie, que vous lui demandiez pardon pour votre péché, que vous acceptiez le fait qu'il soit mort sur le bois de la croix, qu'il a versé son sang. Vous avez vu ce gars? Il y a un gars qui était dans la salle des noces. Il avait accepté l'invitation. Il avait accepté l'invitation. Il ne fait pas partie de la première catégorie au début qu'on n'a pas lu, où les gens ils ont refusé l'invitation. Le problème, ce n'est pas tant d'accepter l'invitation. Le problème, c'est qu'il faut accepter la condition. Et cet homme n'a pas accepté la condition. Cet homme n'avait pas voulu revêtir l'habit de noces qui lui avait été proposé. Et il y a des gens qui ne veulent pas revêtir la condition pour entrer dans le royaume de Dieu. Eux, ils disent, mais moi j'ai ma religion. C'est ça. Ah, mais moi j'ai ma religion. Il y a des gens, ils entrent des fois dans nos lieux de culte, ils disent, ouh, mais que c'est trop sobre. Il manque ceci, il manque cela. Vous voyez, ils ont leur habit à eux. Ils veulent entrer dans le royaume de Dieu, mais ils veulent y rentrer avec leur liste à eux, avec leur façon à eux. Ils veulent y rentrer avec les œuvres. Moi, je fais des œuvres, je fais ma béa tous les jours, donc je crois que Dieu va me sauver. Mais on l'entend ça. On l'entend très souvent. J'ai des gens qui m'ont dit, moi, je fais ma béa tous les jours. Une petite action, je donne une petite pièce à un SDF, je fais ce que je peux, comme ça, j'irai au ciel. Voilà. C'est exactement l'exemple de cette affaire. Vous n'irez pas au ciel parce que vous faites des œuvres, vous n'irez pas au ciel parce que vous êtes catholique, parce que vous êtes protestant ou parce que vous êtes dans une église évangélique, vous n'irez pas au ciel parce que vous aurez eu votre nom inscrit dans le registre d'une église, vous irez au ciel parce que vous aurez revêtu le Seigneur Jésus. Vous aurez revêtu le sang du Seigneur Jésus-Christ. Comment? Eh bien, en lui demandant pardon. Croyez-vous que le sang de Jésus peut vous purifier de tous vos péchés? Croyez-vous ce soir que Jésus peut vous pardonner? Eh bien, il faut demander pardon. Comme le brigand sur la croix, souviens-toi de moi, il n'a pas osé faire une prière trop compliquée, il ne pouvait pas, il n'a osé pas, il a juste demandé, Seigneur, souviens-toi de moi. Quelle grâce! Jésus qui va lui dire, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Lui a pris le bon chemin, l'autre à côté, il est parti, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Moi, j'ai toujours tant été étonné. Je dis, Seigneur, sur la croix, tu as prononcé... Combien de paroles il a prononcé, Jésus? 7. J'ai dit, moi, souvent, vous savez, je discute. Et je dis au Seigneur, tu aurais pu en prononcer 8. Tu aurais pu en prononcer une pour le brigand impie. Mais je crois qu'il n'en avait pas besoin. Parce que la croix suffisait pour qu'il se tourne vers lui. La preuve, c'est que le brigand repentant s'est converti. Il a assisté à la prédication de la croix, mais vraiment, comme on dit aujourd'hui, en live. Oui ou non? Il a vraiment assisté à la prédication de la croix. Et il s'est tourné vers Dieu. Et pour, si vous voulez être sauvé, vous n'avez pas besoin de, qu'on vous prêche l'évangile pendant 36 heures de suite. Vous avez besoin de comprendre qu'il y a une invitation, que Dieu ne regarde pas à l'apparence, à votre passé, à votre condition religieuse. Dieu vous demande d'entrer dans le royaume en vous repentant par rapport à votre péché. Parce qu'on est tous des pécheurs. Et vous devez dire, Seigneur, je te demande pardon. Quel que soit votre âge, quelle que soit votre formation, quelle que soit votre religion. Parfois, les gens me le demandent. Ils me disent, Monsieur Hugo, mais les dénominations où il y a le plus de sauvés, ce sont lesquelles? Et est-ce que les catholiques sont sauvés? Est-ce que les protestants sont sauvés? Vous savez, il y a des gens qui me posent des questions comme ça. Écoutez, moi je sais une chose. Celui qui confessera que Jésus-Christ est le Sauveur et le Seigneur et qu'il est mort sur le bois de la croix pour ses péchés et qu'il se mettra à obéir et à suivre Jésus jusqu'au bout et sa parole, eh bien il sera sauvé. Gloire à Dieu. Celui qui invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Bien sûr, invoqué et puis rester fidèle, bien sûr, attaché à sa parole. Vous avez vu, c'est là, hein? C'est là qu'on voit, au verset 13, cette parole terrible. Liez-lui les mains et les pieds et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors, dans votre cœur, est-ce que vous avez fait la paix avec Dieu? Vous ressemblez à un religieux qui avait l'apparence de la piété? Ou vous ressemblez à un militaire, hein? Vous ressemblez à un militaire vous avez vu ce qu'on peut penser, par contre, ce qu'on peut penser des gens. C'est vrai que nous, on pense des certaines choses. C'est vrai que, franchement, c'est pas vrai. Quand on regarde quelqu'un, des fois, oh, combien de fois j'ai entendu dans l'église, aller aux longues veilles, vous savez, aux longues veilles, quand on fait des repas, oh, j'avais jamais discuté avec vous, oh, mais vous êtes vachement sympa, je croyais pas, je croyais que vous étiez orgueilleux. Vous voyez, parce que les gens, ils se... Non, mais on l'entend souvent, ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oh, je croyais que... Oh, mais je suis content de vous connaître. Hein. Oh, quand on vous voit comme ça, on n'a pas l'impression que vous êtes comme ça. C'est bien la preuve, sans qu'on le veuille, qu'on regarde à l'apparence. Mais le Seigneur, il regarde au cœur. Et si ce soir vous êtes comme cet homme, Seigneur, mais moi, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je crois que tu dis un mot et que tu me bénis. Et mieux encore, que tu bénis quelqu'un de ma famille. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Vous avez quelqu'un aux Antilles, à Haïti, qui est malade? Est-ce que Dieu peut guérir quelqu'un à Saint-Martin ce soir? Parce que Kerry va prier pour un membre de sa famille. Est-ce que Dieu sait où habite sa tante malade à Saint-Martin? Ou est-ce que Dieu a besoin de Google Maps, hein? Dites-moi, mes frères et sœurs, soyons vrais. Si Dieu ce soir vous parle de vous repentir, repentez-vous. Ne restez pas avec vos habits spéciaux, spéciales religion. Donnez-lui votre vie. Soyez simple, soyez vrai. Dis un mot, Seigneur, et mon serviteur sera guéri.